Alors bonjour à tous. C'est incroyable que je suis ici aujourd'hui et je vais vous dire comment. Mais avant, je vais vous lire un verset qui dit « Lorsque nous arrivâmes, alors dans la Bible c'est à Jérusalem, mais je vais dire à Biscaros, hein, les frères nous reçurent avec joie ». Vraiment, j'ai été très touchée par l'accueil que j'ai eu depuis hier. Et ce qui m'a touchée le plus, c'est que j'avais rencontré Roland et Dorothea, mais il y a plus de 15 ans, dans une église à Istres. Je ne sais même plus quand c'était. Mais j'avais toujours le nom de Roland, parce que je savais qu'il recevait la lettre de nouvelles. Et quand Roland m'a invitée pour venir à l'église, bon, moi, ça m'a fait très, très plaisir. Et de les revoir, de repartager hier soir. Donc, lorsque nous arrivâmes à Biscaros, les frères nous reçurent avec joie. Après les avoir salués, Paul raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Voilà, le travail que vous allez voir ce matin, ce n'est pas le travail de Françoise, c'est le travail du Seigneur qui se sert de plein de personnes pour accomplir son œuvre là où il le veut. Alors, voilà, je vais me mettre un peu comme ça. Voilà, donc, ce matin, on va partir au Burkina Faso, où il fait un peu plus chaud. J'avais l'impression d'être à la saison des pluies hier soir, hein, quand on est arrivé. Voilà, et on va parler des oubliés du Faso, qui sont des enfants, qui sont dans des situations spéciales, et c'est vraiment une réalité. Donc, s'il y a un verset qu'on peut se souvenir aujourd'hui, c'est « Ne nous lassons pas de faire le bien ». C'est vraiment ce que le Seigneur nous demande de faire jour après jour, là où il nous place. Alors, ça va marcher? Très bien. Donc, le Burkina Faso, c'est un pays qui est entouré de 7 autres pays. C'est un pays très enclavé, un pays très pauvre. Il y a très peu de ressources naturelles dans ce pays. Quand je suis arrivée en 86, là-bas, il y avait 7 millions d'habitants. Aujourd'hui, c'est plus que 16 millions. Donc, il y a une forte démographie et beaucoup, beaucoup, 3/4 de la population a moins de 20 ans. Donc, énormément de jeunes. Donc, la capitale, je pense qu'on peut faire comme ça, voilà. La capitale, c'est Ouagadougou. Et donc, j'ai travaillé complètement à l'est pendant 25 ans à peu près, ici, dans un petit village qui s'appelait Mahadaga. Et puis, depuis 5 ans, je suis à Fada N'Gourma. Voilà, donc vous voyez, le Burkina Faso est entouré de pays, Mali, Niger, Bénin, tout ça. Maintenant, on en entend beaucoup parler, mais je vous en parlerai plus tard de la situation. Voilà. Alors, avant de continuer, il faut savoir parler un petit peu la langue. Il y a plus de 60 langues différentes au Burkina Faso. Hein? Et moi, j'ai appris le Gourman Chema. Alors, est-ce qu'il y a un enfant courageux, là, ce matin? Ou pas courageux, hein, mais il peut venir quand même. Allez. Ah, sinon, on ne peut pas voyager. Voilà. Voilà, donc maintenant on peut partir au Burkina Faso. Lafia, ça veut dire ok, quoi, ça va. Et là-bas, même si on est presque à l'article de la mort, ça va quand même. C'est incroyable, hein, c'est... Alors, on parlait de véhicules hier soir. Un jour, je me suis retrouvée derrière cet énorme véhicule. Mais ce qui m'a frappée, c'est ce qui est écrit en bas. Je ne sais pas si vous voyez. Le sang de Jésus me couvre. Et je me suis dit, là, c'est certainement un chrétien qui conduit ce camion-là. Et c'est vrai que le travail que vous allez voir, c'est le travail de Jésus. C'est lui seul qui nous protège, qui nous fait avancer, qui nous aide dans ce combat qui est le travail quand même de la mission. Il y a beaucoup de joie, mais il y a aussi des peines, des échecs. Mais avec le Seigneur, on peut continuer, on peut avancer. Et son sang nous protège de beaucoup de choses. Alors pendant... pour commencer, je suis parisienne et je suis infirmière sage-femme. Et dès ma conversion, vers l'âge de 18 ans, même avant, je pensais aller aider au loin. Et le Seigneur a permis que je rencontre des chrétiens, que je lui remette ma vie. Et ça a pris 10 ans avant de partir en mission. Et je suis partie avec la CIM, Société Internationale Missionnaire. Et le responsable à l'époque m'a dit, il y a un petit travail au Burkina. Et je me suis retrouvée, moi qui étais très parisienne et qui avait dit jamais je quitterai Paris, hein, je le dis encore, mais je me suis retrouvée au fin fond de la brousse. Et il y a 34 ans, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien, hein, pas d'électricité, rien du tout. Mais le Seigneur a gardé. Donc pendant plusieurs années, hein, presque 20 ans, j'ai travaillé dans le dispensaire, la maternité. Il y avait un hôpital et tout, parce qu'il n'y avait rien. Mais en même temps, j'ai commencé à rencontrer des enfants en situation de handicap. Et le Seigneur avait son plan. Parfois, je lui dis, Seigneur, pourquoi tu m'as mis ces enfants sur la route ? Parce qu'il y a eu des moments de découragement, mais le Seigneur, il avait son plan. Et j'ai rencontré des enfants extraordinaires. Et le Seigneur, il m'a dit, ouvre ta bouche pour la cause, pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, défends le malheureux. Moi qui ne savais pas parler, bon, le Seigneur m'aide à ouvrir ma bouche. Et c'est ça qu'en tant qu'enfant de Dieu, hein, il nous demande d'être le porte-parole des plus petits, de ceux qui ne peuvent pas parler, qui ne peuvent pas se défendre. On devient leur bouche. Et on peut plaider leur cause et les aider dans ce monde. Donc j'ai commencé par rencontrer Amadou et puis Moussa, qui veut dire Moïse. Et ces enfants-là étaient atteints de la poliomyélite. À cette époque-là, il y avait encore cet handicap. Et maintenant, c'est éradiqué avec le vaccin. Mais ces enfants-là donc étaient par terre, ne marchaient pas. Ils avaient des toutes petites jambes. Et je ne savais pas quoi faire. Le premier, j'ai mis des cartons sur ses jambes, une bande pour le mettre debout. Et puis voilà, le Seigneur a mis des gens sur notre route et on a pu commencer à les aider. Donc ça, c'était au début et puis aujourd'hui. Quand Moussa est venu, il se traînait par terre. Il avait déjà 13 ans et il n'allait pas à l'école. Et il y avait un vieux fauteuil roulant sur la station missionnaire. Et j'ai pris le fauteuil et je l'ai donné à Moussa et je lui ai dit, tu me le ramènes hein, tout de suite, hein, ce fauteuil. C'était idiot de dire ça. Et bien sûr, il ne m'a pas ramené le fauteuil parce que pour lui, c'était une nouvelle vie. Il avait comme une voiture, il se déplaçait tout seul. Et quelques jours après, il y avait d'autres enfants à la porte, par terre. Qu'est-ce que vous voulez, les enfants ? On veut un vélo comme Moussa. Et c'est comme ça que le travail a commencé. Et petit à petit, le Seigneur a ouvert plein de portes et jusqu'à aujourd'hui, on continue à s'occuper de ses enfants. Voilà, Moussa avec son premier fauteuil roulant, il a pu être opéré. Aujourd'hui, il marche avec bien sûr des appareils, des béquilles. Il a une moto, il a fondé une famille et il est laborantin. Et aussi, il aime le Seigneur. Voilà, le but de notre travail, c'est d'aider là où ses enfants souffrent, mais toujours avec la vision que... ce travail est pour le Seigneur et que ces enfants, leur seule espérance, elle est en Jésus. Elle n'est pas dans le matériel ou quoi que ce soit, mais dans le Seigneur. Alors, un enfant handicapé, c'est un enfant dont on a peur. Parce qu'on pense... Alors, au niveau religion, il y a beaucoup, beaucoup d'animistes dans le pays. Je dirais, à part les chrétiens nés de nouveau, tout le monde est animiste là-bas, hein, dans les autres religions. Et... on a peur. Un handicap, c'est pas normal. Des jumeaux, c'est pas normal non plus. Donc, on va toujours associer ça à un mauvais esprit qui est venu sur la famille, sur l'enfant, et que si on touche l'enfant, on va soi-même être handicapé ou avoir un malheur qui arrive, etc. Et le petit Palamanga qui est là, Palamanga, ça veut dire cœur heureux. Hein. Il a 7 ans sur cette photo. Et il vivait sous ce petit abri de paille. C'était incroyable de voir ça. Hein. En fait, sa maman était remariée et elle l'a confié aux grands-parents qui, eux, n'acceptaient pas cet handicap. Il est presque aveugle et sourd. Et donc, nous, on l'a découvert et on a commencé à le toucher, à lui donner à manger, montrer à la grand-mère qu'il faut le prendre dans les bras, qu'il faut lui témoigner de l'amour. Voilà, et ça on le fait parce que le Seigneur nous demande de le faire et aussi parce que c'est lui qui nous donne la force de le faire. Ce petit-là, il avait le t-shirt qu'il avait, c'était comme du carton. Il n'avait pas été lavé depuis des mois et des mois. Hein. Voilà, donc si le Seigneur n'est pas au centre de notre travail, il est vain. Alors voilà aujourd'hui Palamanga. Sa maman l'a repris à la maison, le deuxième papa l'a complètement accepté et tous les dimanches, sa maman et lui vont à l'église. Et on a un pasteur qui travaille avec nous, il a fait un grand travail auprès de cette famille. Alors malheureusement, le petit Palamanga, il est quand même touché, il a des lacunes, il ne peut pas vraiment se laver, etc. Parce qu'il y a quand même eu beaucoup de... pas d'amour, manque d'amour dès le départ et c'était un peu difficile. Yampabou. Yampabou, ça veut dire cadeau de Dieu. Et jusqu'à aujourd'hui, je dis, c'est un cadeau du Seigneur, ce Yampabou-là. Quand il était tout petit, je le prenais dans les bras. Aujourd'hui, je ne peux plus. C'est un homme bien costaud. Il est infirme moteur cérébral. Et il a du mal à avoir des gestes coordonnés. Mais Yampabou, il est incroyable. Il s'est marié récemment, ils ont une petite fille maintenant, et il travaille, il vend les bouteilles de gaz, il recharge avec des panneaux solaires les portables, hein, vive la technologie. Et donc il s'est marié, et je lui dis, mais comment tu as rencontré ta femme, Yampabou? Parce que je la connaissais, elle est aussi handicapée. Souvent les personnes handicapées se marient, ont les maris entre elles. Elle a des problèmes aux mains. Et il avait vu une photo au centre, et il a dit, c'est elle que je veux marier. Et la famille est allée voir la famille de la jeune fille, et c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés mariés. Ils aiment le Seigneur tous les deux, et ils sont vraiment fidèles à l'Église. Voilà, Yampabou, le jour de son baptême, donc je dis, le fauteuil roulant a aussi été baptisé ce jour-là, mais jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais vu Yampabou manquer un culte. C'est vraiment encourageant de voir ça. Il est bien aimé de tout le monde. Il est bien connu dans la région. Et voilà ce que notre but, redonner l'espoir, la joie, l'espérance en Jésus par des moyens sociaux, physiques, dans notre ministère. Donc, il y a 2 centres actuellement. Maintenant, je travaille dans le deuxième. Et c'est celui-là que je vais vous présenter ce matin. Mais c'est le même travail. Donc, on fait surtout, on aide la personne handicapée à mieux vivre physiquement. Donc, c'est la rééducation. Ici, c'est notre salle de rééducation. C'est un moyen pour apprendre à se tenir debout ou être bien assis. Et là, vous voyez, hier soir, je parlais des coques. Donc, si vous avez des coques ou vous savez où vous pouvez en avoir, ça, c'est un grand besoin pour nous parce qu'on ne peut pas fabriquer ça au Burkina Faso. Sinon, tout le reste, c'est nous qui avons fabriqué pour mettre l'enfant debout, pour encourager les mamans à faire des soins. Ces enfants-là, ils ne savent rien faire d'eux-mêmes. Hein. Alors, on fait aussi des appareillages. Et grâce à des jeunes à Lyon qui ont couru le trail du Mont-Blanc, là, on a pu financer notre four orthopédique. Et ça, ce sont nos premiers jeunes qui ont eu une prothèse. Donc ça, c'est fabriqué là-bas. Et grâce à ça, les jeunes et les moins jeunes peuvent se tenir debout grâce à l'appareillage. Donc là, ce n'était pas tout à fait terminé, mais maintenant, on ne voit absolument pas qu'ils ont une jambe amputée. Hein. On envoie nos enfants aussi pour les soins de chirurgie. Et là, on va au Bénin, dans un grand, grand hôpital catholique où ils font un travail extraordinaire au niveau orthopédique. Et là, c'est Dangouma. Lui, il est né avec donc les doigts collés. c'est pas grand-chose, les doigts collés. Hein. Mais il est né, il avait un frère jumeau qui, lui, n'avait rien. Et il y a quelques années, avoir des jumeaux, c'était vu aussi comme une malédiction. Et moi, en tant que sage-femme, j'ai vu des enfants jumeaux où l'un mourait systématiquement. Et je pense que petit à petit, les chrétiens ont aussi des jumeaux. Petit à petit, ce côté de la culture a complètement changé. Bon, c'est surtout l'animisme. Pourquoi avoir deux enfants? Alors, ça, c'est pas normal. Alors, trois, vous imaginez le problème. Hein. Et donc, lui, son papa, ne voulait pas qu'il vive. Et finalement, c'est la grand-mère qui l'a pris avec elle. Il a grandi avec sa grand-mère, loin de son autre frère jumeau, qui lui a été scolarisé et tout. Lui, il n'était pas à l'école. Et un jour, comme la grand-mère est chrétienne, elle a montré au pasteur qui nous l'a amené. Et on a pu faire opérer la première main et 2 ans après, la deuxième main. Et aujourd'hui, pratiquement, il peut bouger tous ses doigts et la vie est transformée pour lui parce qu'au regard des autres, il n'est pas quelqu'un de pestiféré qu'il faut surtout pas, à qui il ne faut surtout pas parler. Donc il n'a pas été à l'école, mais il va à l'église, il aime le Seigneur. Et on fait un projet d'élevage avec lui aujourd'hui. Donc on travaille beaucoup avec les mamans, parce que là-bas, même au dispensaire, il n'y a pas d'aide-soignant. Hein. C'est la famille qui fait tout ce travail-là. Et donc nous, on peut... Alors on a un centre de base, mais on rayonne dans toute la province. C'est-à-dire tous les jours, il y a une équipe qui part en moto pour atteindre les enfants chez eux, pour travailler avec les mamans. Si possible. Parfois, c'est 50-60 kilomètres hein, pour atteindre un enfant. Et les mamans ne viendront pas au centre. Elles ne peuvent pas, même physiquement et avec les moyens. Donc, c'est nous qui allons à domicile et on essaye d'enseigner les mamans à être le kinésithérapeute pendant le mois et demi où on ne peut pas de nouveau rendre visite à cet enfant. Donc, c'est sûr, il y a tout un travail avec la famille, de les convaincre que c'est important de prendre soin de leur enfant pour avoir des résultats. Et puis voilà, on donne des moyens pour mieux vivre physiquement. Donc vous voyez, là, c'est un fauteuil roulant. Alors là aussi, on cherche des fauteuils roulants pour les deux centres. Et après, on les expédie là-bas. Et là, vous voyez, on a mis une coque et on a adapté une petite table. Fridaus, elle est très, très, très handicapée, mais nous, quand on l'a connue, elle était par terre, hein, couchée par terre. Aujourd'hui, dès qu'elle, le matin arrive, elle veut être assise dans son fauteuil. Voilà, et c'est une petite fille qui est toujours gaie, qui est courageuse, et on travaille avec la famille là aussi. On fabrique nous-mêmes des tricycles comme ça, et c'est un moyen pour les grands handicapés de pouvoir aller au marché, etc. Donc, il y a tout le côté social qui est important. Quand vous arrivez à Ouagadougou, tout le long de la route, vous n'allez voir que des personnes handicapées qui mendient. Les personnes handicapées, c'est celles qu'on ne met pas à l'école. C'est celles qui ont peu de chances d'avoir un travail à l'État ou dans un privé. Donc, il faut trouver des moyens pour les aider. Donc, c'est les micro-projets, l'élevage, mais c'est aussi l'apprentissage. Donc le tissage, la couture, et on a plusieurs jeunes aujourd'hui qui sont des petits PDG dans leur domaine, hein, qui s'en sortent très bien, surtout dans le milieu de la couture. Alors, je vois qu'il y a quelques enfants ici. Les enfants, vous aimez l'école, n'est-ce pas? Oui ou non? Ah bon, c'est bien. C'est très très important l'école, hein, parce qu'on peut apprendre plein de choses. Et on verra plus tard, c'est qu'on peut apprendre à lire dans la Bible aussi, puisqu'on sait lire et écrire. Hein. Donc ça, c'est Raymond. Raymond, il est aveugle. Il est né comme ça, donc il ne voit pas. Et on l'a eu tout de suite. Je me rappelle quand on a dit à la maman, il n'y a pas d'espoir, il ne pourra pas voir. Elle s'est mise à pleurer, la pauvre. Mais depuis, on travaille vraiment avec cette famille. Il habite à 30 kilomètres. On va à domicile le voir. Mais on prépare surtout... La famille a accepté de mettre l'enfant dans une école spécialisée. Et les écoles spécialisées, elles sont loin souvent du domicile. Il faut être en internat. Et là, il apprend à lire. Hein, les enfants, vous savez, les enfants aveugles, ils lisent comment? Vous savez? Oui, avec les doigts, hein, des petits points. Et c'est ça qu'il est en train d'apprendre, là, le petit Raymond. Donc, on a plusieurs enfants qui sont mis dans des écoles de l'État. Si ce sont des enfants handicapés, on ne va pas les séparer du domicile. On va tout faire pour qu'ils soient intégrés dans les écoles d'État. Donc là, il faut parler avec les enseignants, leur faire comprendre que l'enfant, il ne va pas amener le malheur dans la classe. On a eu des fois des enseignants qui ont refusé. Donc, c'était un travail à faire avec eux. Et puis, en général, ça se passe bien. Donc, la petite Bernadette, là, elle part à l'école avec son petit tricycle et c'est son frère ou sa sœur qui la pousse. Et ici, c'est Antoine. Antoine, il a une jambe amputée, il a une autre jambe qui ne fonctionne pas, il a juste un bout de doigt et avec ça, il travaille à l'école très, très, très bien. Donc, c'est vraiment des leçons de courage. On vient de mettre Firim Pali à l'école. C'est tout nouveau, là, c'était en octobre. Et c'est incroyable de voir la joie de cet enfant d'être avec les autres enfants, de ne pas être mis dans un coin de la concession, mais d'être entouré, d'être accepté par les autres. Donc là aussi, il y a tout un travail à faire avec les enfants. Et on lui a construit une petite table pour qu'il soit assis comme les autres. Et là, vous voyez sa joie, hein, il est tout heureux. C'est un enfant qui a beaucoup de mal à marcher. Et un jour, moi, j'étais découragée et il est arrivé près de moi, il m'a pris la main. Et puis j'ai dit, ah oui, Seigneur, oui, on continue, on persévère. Voilà. Donc, il y a les enfants qu'on met dans les écoles d'État, surtout ceux qui sont simplement handicapés physiques. Puis il y a les autres, il y a les sourds, les aveugles. Les sourds, c'est beaucoup, beaucoup de sourds au Burkina parce que c'est la conséquence de la méningite. Et on a actuellement 41 enfants que l'on scolarise dans une école spécialisée à Fada N'Gourma. Donc ça, c'est ceux qui sont tout en haut. Et puis, on a 26 enfants aveugles et malvoyants que l'on scolarise dans une école à Ouagadougou, une école chrétienne. L'école des sourds n'est pas chrétienne, mais on peut aller partager l'évangile dans cette école. Et en bas, c'est une école chrétienne. Donc, vous voyez les enfants qui sont là, je les ai eus tout petits. Et Mathieu qui est là, il passe son baccalauréat cette année. C'est mon fils. Hein. Alors, je vais vous parler de Malo. Malo, quand je l'ai rencontré, je me souviens encore, hein, quand on a pris cette photo, elle avait 5 ans, donc c'était en 2005, hein, parce qu'elle est née en 2000. Voilà ce que raconte Malo. Je suis devenue aveugle à l'âge de 5 ans. Mais comme mes parents ne connaissaient pas Jésus, ils ont fait un sacrifice en appelant les féticheurs, les charlatans et les marabouts, et croyant qu'avec tout cela, que je serais guérie. Mais rien n'était changé. Donc on a rencontré cette petite fille, et là on a demandé aux parents s'ils acceptent qu'on la mette dans notre école, dans le premier centre, l'école des enfants aveugles. Et on a vu une petite fille se transformer complètement. Malo aime beaucoup lire. Et elle dit que lors du dépistage dans son village, elle nous a rencontrés. Et quand on l'a amenée à Mahadaga, elle a appris beaucoup de choses. Elle s'est convertie et elle a bien étudié. Alors aujourd'hui, peut-être je vais revenir sur ces photos. Donc les enfants aveugles, ils apprennent à lire. Le braille et ils écrivent avec ce qu'on appelle la tablette. Donc on fait des points, mais pour pouvoir lire ce qu'on écrit, il faut enlever la feuille, la retourner et lire. Donc c'est pour ça qu'on essaye d'avoir les machines Perkins. La machine Perkins, il y a 6 touches et si on tape, ça fait le point braille et l'enfant peut lire ce qu'il écrit en même temps, ce qui aide beaucoup avec les mathématiques. Et aujourd'hui, Malo est capable de travailler avec l'ordinateur. Donc l'ordinateur a une synthèse vocale et avec ça, ils apprennent à se servir de ça. Vraiment, la technologie aide beaucoup les handicapés. Alors aujourd'hui, voilà notre petite fille Malo qui apprenait à marcher avec sa canne. Aujourd'hui, c'est une belle jeune fille hein, qui est en classe de... Elle est passée en première cette année. Et grâce aux études bibliques, à l'école et au centre, j'ai grandi dans ma foi avec Jésus-Christ. Je suis très contente car Jésus est mort sur la croix pour me sauver. J'avais des affreux cauchemars Mais quand j'ai cru en Jésus, tout est changé, car Jésus est avec moi partout et tous les jours. J'ai compris que le handicap n'est ni une fatalité, ni une malédiction. Parce que ces enfants, ils vivent avec ça. On leur a dit qu'ils sont maudits, qu'ils ne valent rien, qu'ils sont une bouche inutile. Et souvent, ils mangent tout seuls dans le coin, alors qu'on sait qu'en Afrique, tout le monde mange ensemble. Malgré mon handicap, je peux aussi parler de Jésus à ceux qui ne le connaissent pas. Les aveugles verront et les sourds entendront. Cela veut dire que Jésus a ouvert mes yeux en me donnant la vie éternelle. Je sais qu'un jour, je verrai Jésus avec mes propres yeux. Oui, elle va voir Jésus et nous, on la verra avec ses yeux. Le pasteur du centre est parti dans ma famille animiste prêcher la bonne nouvelle et l'un de mes frères a donné sa vie à Jésus. Donc, continuez de prier pour ces enfants. Donc, Malo, c'est sûr qu'on est très proche d'elle. Elle n'avait pas vu le centre, elle serait aujourd'hui mariée, hein, peut-être à quelqu'un de très âgé. Elle n'aurait pas une vie facile. Et elle n'a toujours pas une vie facile avec ses parents qui sont toujours très animistes. Mais elle aime le Seigneur, c'est incroyable. Et elle trouve toujours les moyens de ne pas manger les choses sacrifiées aux idoles, etc. Alors là, c'est deux pasteurs, Thiago. Hein, et ils sont courageux aussi, les pasteurs. Pourquoi ils sont courageux, les enfants? Parce qu'il y a des crocodiles dans l'eau. C'était le jour du baptême de Malo et il fallait voir, elle était rayonnante en sortant de l'eau. C'était vraiment émouvant de la voir. Et nos jeunes aujourd'hui, il y a tout un lot de jeunes qui a donné sa vie à Jésus et qui avance avec le Seigneur. Alors là, ici, c'était en septembre de cette année, tout un groupe est parti au camp de la jeunesse chrétienne de Ouagadougou. Et là, ils étaient donc, ils visitaient quelque chose à Ouaga, et ils sont tous entre la seconde et la terminale. Et Tani, qui est ici, pour ceux qui ont vu le film, Tani est dans le film. Tani a eu son bac l'année dernière, en juin passé, et pour l'instant, on essaye de la mettre à l'université à Ouagadougou. Elle veut être journaliste, et j'espère qu'un jour, elle pourra venir parler en France. Et moi, j'ai toujours été frappée par le témoignage de Tani, qui est aveugle, qui a dit dans le passé hein, que j'étais triste, soucieuse, quel sera mon avenir? Je n'avais aucune réponse, sauf mourir, c'est mieux. Plein de personnes me disaient, Dieu t'a lancé une hache. Bon, ça, c'était une histoire là-bas. Ce qui voulait dire dans ma langue que j'étais maudite par Dieu. Et elle pleurait beaucoup. Et je pleurais sans cesse, elle écrit. Elle a perdu son papa quand elle avait 8 ans. Et alors, être handicapée et perdre son papa, c'était encore pire. Et c'est à 13 ans que nous, on a rencontré Tani. Et là, elle a appris à lire, à écrire. Et surtout, elle a donné son cœur à Jésus. Je me suis convertie dès ma première année à l'internat, après la lecture du verset Jean 8, verset 12, qui dit que Jésus est la lumière. Je le sais par cœur, mais je vais le lire parce que là, pour que ça soit bien dit. Jean 8, verset 12, Jésus dit, 8, verset 12, attendez, voilà, c'est ça. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, alors qu'elle marche dans les ténèbres tous les jours, puisqu'elle est aveugle, mais il aura la lumière de la vie. Et elle s'est convertie avec ce verset et jusqu'à aujourd'hui, elle est très fidèle au Seigneur Tani. Voilà, donc pour nous, c'est vraiment important que ces enfants aient accès à l'Évangile. Ça, c'est une petite fille sourde et capable de lire maintenant des livres puisqu'elle apprend à lire et à écrire à l'école. Donc, à l'école des sourds de Fada, c'est une école laïque. Et on a un bon contact avec celle qui a fondé l'école. Et cette année, elle nous a autorisé à aller 2 fois par trimestre faire de l'évangélisation dans l'école. Et il y a beaucoup d'enfants issus de familles musulmanes, de familles animistes. Donc, prions que l'équipe burkinabé puisse bien préparer ses temps avec l'école. Là, on va préparer quelque chose pour la fête de Noël. Voilà. Alors, les enfants sourds, comment ils font pour parler? Vous savez? Il y a des enfants timides ici. Ils disent « bonjour » comme ça. D'accord? Ou ils disent « merci » comme ça. OK? C'est toute une langue. Quand on va en brousse pour voir nos enfants, nos jeunes handicapés, on essaye de saisir toute occasion aussi pour partager la parole de Dieu. Et c'est assez rare qu'on a une opposition de la famille. C'est assez rare. Dans n'importe quel milieu, musulman ou animiste, on a toujours pu quand même lire des versets de la Bible. Et là, on est allé voir... j'ai oublié son prénom. Lalipois. Lalipois, elle a 18 ans. Elle vit comme ça depuis sa petite enfance. Donc, elle est infirme motrice cérébrale. Elle est couchée en permanence. Elle a des gestes un peu qu'elle ne peut pas maîtriser. Donc, on a réussi quand même, dernièrement, à l'asseoir grâce au matériel qui est venu de la France. Hein. Et on la visite régulièrement, on l'encourage. Et là, Samuel, l'animateur, était en train de lui apprendre Jean 3,16. Hein, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie pour nous, qu'il a envoyé Jésus pour nous. Et elle essayait de répéter le verset. Et moi, je suis toujours, quand je vois cette fille qui vit comme ça, du matin au soir, elle a toujours le sourire. Donc on a vraiment des... moi, la première, hein, j'ai appris à... Ben, Françoise, arrête de ne pas être contente, arrête de râler, sois reconnaissante déjà pour tout ce que tu as jour après jour. Voilà, donc un autre animateur qui partage un petit partage biblique avec Frida House. On lui a acheté un petit cahier de coloriage, elle essaye de colorier. Bon, on essaye de semer dans ses cœurs. Et il faut savoir que dès qu'on voit un enfant, il y a souvent beaucoup d'enfants à côté ou les familles qui entendent aussi l'Évangile. Et ici, un de nos animateurs est en train de donner une petite radio à Salah. Salah, c'est une femme adulte qui ne peut pas marcher, à qui on a remis un tricycle électrique qu'on fabrique nous-mêmes. Et grâce à ce tricycle, elle peut aller à l'église maintenant. Elle est chrétienne. Et là, on lui a offert une petite radio qui se recharge à l'énergie solaire. Et puis, avec une petite puce, eh ben, il y a la Bible dans sa propre langue là-dessus. Et elle peut entendre donc la Bible en gourmand de schéma. Elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire, mais elle entend la Bible. C'est ça qui est... Et pour les aveugles, on a des petits appareils où ils écoutent. Ils savent très bien manier tout ça et ils entendent, ils peuvent lire la Bible en l'écoutant. Voilà, le club biblique, tous les mercredis après-midi au centre, où on a des enfants qui sont sourds, où ils manquent un bras, où ils sont handicapés mentaux, mais ils sont là, tous réunis ensemble, à chanter, à partager une histoire de la Bible. Et c'est incroyable la joie qu'il y a dans ce groupe. Alors, pour finir, je vais vous parler d'Anatole et vraiment prier pour Anatole. Anatole, il a 11 ans, hein. Non, même un peu plus, hein, je dirais 12 ans peut-être. À l'âge de 8 ans, il allait à l'école. Le soir, il est rentré à la maison, il s'est couché. Le lendemain, il ne pouvait plus marcher. La famille très pauvre n'a rien fait. Et nous, on l'a découvert 2 ans après. Et il vivait comme ça, hein, complètement couché, beaucoup de douleurs. On l'a amené à Ouagadougou, on a fait l'IRM, le scanner et tout. Et finalement, on pense qu'il a une maladie orpheline. Alors, au Burkina, vous imaginez, c'est un peu compliqué. Mais on entoure beaucoup ce petit Anatole. Il a fait de l'élevage de poules. Tout a été volé, c'est compliqué, hein. C'est toujours une bataille pour arriver à faire quelque chose, mais on l'entoure beaucoup et il vient tous les mercredis au club, on va le chercher, on prie beaucoup pour lui, pour qu'un jour il puisse remarcher. Alors les enfants, n'oubliez pas Anatole dans vos cœurs, d'accord, et dans vos prières. Alors maintenant on va chanter en gourmand schéma, lis ta Bible. Alors, en français, on lit la Bible et on prie. En gourmand schéma, on prie d'abord et on lit après. Donc, prie, lis la Bible et voilà. Donc, vous allez m'aider parce que moi, je suis une piètre chanteuse, mais je veux entendre les enfants et les adultes aussi, d'accord ? Jandi Chogi Otientili, Otientili, Otientili. Jandi Chogi Otientili, Ayabwa Fandi. Ayabwa Fandi. Ayabwa Fandi. Jandi Chogi Otientili, Ayabwa Fandi. D'accord? Donc c'est important de lire, de prier. C'est la Bible qui nous aide à grandir avec Jésus dans ce monde. Donc voilà, tous les enfants du monde peuvent chanter ce petit chant, parce qu'on peut le traduire peut-être aussi en brésilien, il doit exister, Thiago, je pense. Voilà. Alors, je vais vous laisser quelques sujets de prière. Donc le plus grand sujet quand même, c'est la situation au Burkina. Ça, c'était en mars 2018, avril-mai 2018. Donc, vous voyez déjà, alors le Nord, ça faisait déjà plusieurs années que c'était comme ça. Mais là, il y a le premier centre, Mahadaga. Donc là, on ne pouvait plus aller, les missionnaires, on ne pouvait plus aller, c'était trop dangereux. Et en l'espace de quelques mois, tout s'est agrandi et le deuxième centre qui est là, donc tous les missionnaires qui travaillaient de la CIM, en tout cas qui travaillaient dans toute cette zone-là, on est tous pour l'instant à Ouagadougou. Et c'est sûr que ça complique la situation, mais en même temps, bon, c'est un moyen aussi que nos équipes burkinabées prennent le relais, et ça c'est important. C'est la vision aussi que nous on se retire et que l'équipe burkinabée continue. Mais priez, parce que vraiment les chrétiens maintenant sont ciblés. Il y a eu des pasteurs tués, des chrétiens tués, les enseignants, les infirmiers aussi sont touchés. Il y a des écoles qui ont fermé, il y a plus de 300 000 enfants qui ne vont plus à l'école. Et surtout, il y a des villages entiers qui ont peur et qui se déplacent. Donc il y a beaucoup, beaucoup de migrants maintenant. Alors, les gens étaient pauvres, ils sont encore plus pauvres maintenant. Même nous, il y a certaines zones, donc nous on rayonne pour nos enfants handicapés dans ce territoire-là. Ici on ne peut pratiquement plus aller. Des animateurs, c'est trop dangereux. Donc il y a même des enfants handicapés maintenant qu'on ne peut plus visiter. Donc priez pour le Burkina et priez en particulier pour les chrétiens donc, qui commencent à être visés. Et dans le premier centre, il y a quand même un centre médical chrétien. Il y a le centre des handicapés, il y a des écoles chrétiennes, que vraiment toutes nos équipes soient vraiment protégées de toute attaque. Et récemment, il y a une semaine, il y a eu une attaque à environ 80 km où il y a eu 40 morts quand même. Donc il faut vraiment prier pour nos frères et sœurs de là-bas. Donc priez pour l'équipe qui est au centre Espoir. Ils sont sept personnes. Et c'est Canfieni qui est là, qui dirige actuellement le travail là-bas. Et vraiment, j'ai vu combien le Seigneur a travaillé son cœur au fur et à mesure et que maintenant, elle a vraiment une vision spirituelle de ce travail. Parce que, voilà, je disais au début, si Jésus n'est plus la base de ce ministère, bon, tout le monde peut le faire. Et donc, priez pour cette équipe-là, qu'ils restent fidèles et qu'ils aient à cœur de témoigner par leur travail auprès du Seigneur. Donc moi, je continue à travailler avec eux tous les jours par Internet. Ça, c'est extraordinaire. C'est comme si Canfieni était à côté de moi. Et ça m'a fait donner l'impression que j'étais toujours avec eux, quoi. Même s'il y a 6000 kilomètres qui nous séparent, on est à côté. Ça, c'est extraordinaire. Et ça permet la continuité du travail. Et c'est important de ne pas les abandonner. Ils ont besoin de nous. La prise en charge d'un enfant handicapé est énorme. C'est sur des années aussi. C'est pas on va faire ça pour toi aujourd'hui, puis demain, débrouille-toi. On ne peut pas faire ça. Ces enfants comptent sur nous. On doit continuer à leur tenir la main. Donc vraiment, priez pour l'équipe, priez pour Samuel, qui est parti faire la formation de kinésithérapeute. Voilà, donc c'est important aussi de pouvoir former toute notre équipe à des métiers solides et reconnus par l'État. Samuel, toute occasion est bonne pour partager l'évangile. Et là, le petit garçon, il est amputé d'un bras. Alors, qui peut me lire le proverbe, là? Allez, vas-y. Ah, voilà, un courageux, viens. Ah, j'ai deux. Allez-y, lisez fort, fort. Oui, allez. Bravo, on les applaudit, hein, ça c'est découragé. Hein. Donc, vous êtes d'accord les enfants, hein, s'il y a plein de fourmis là, elles vont pouvoir soulever un éléphant. Vous êtes d'accord avec ça, hein? Et j'aime ce proverbe. Alors là-bas, on parle beaucoup en proverbe, hein, et j'aime beaucoup ça. Et c'est vrai, hein, si on est tous les petites fourmis du Seigneur. Tous les petites fourmis. Et tous ensemble, on peut arriver à faire des grandes choses et à soulever l'éléphant de l'handicap. Hein. Et c'est vrai que le Seigneur, il est le premier qui se sert de nous tous, qui se sert d'une équipe burkinabé, qui se sert d'enfants handicapés, qui se sert de frères et sœurs partout dans le monde, qui se sert de missionnaires. Et c'est comme ça qu'on peut arriver à proclamer l'Évangile, continuer à partager notre foi auprès de toutes ces personnes en situation difficile. Donc, tous ensemble, continuons à œuvrer, hein, que le Seigneur mette ça sur votre cœur. Et ici, cette photo, ben, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça c'est le four orthopédique. Et Michel qui est là, c'est lui qui a envoyé plusieurs containers pendant les années. Et ça, ça a été un grand encouragement pour moi, de voir tout ce matériel qui arrivait. Je me souviens quand j'ai commencé mon travail d'infirmière, on n'avait même pas de bande pour soigner les malades. Et c'est comme ça que les premiers containers étaient remplis de draps. Et on coupait les draps, on faisait des bandes. J'étais obligée d'aller chercher du tissu au marché pour pouvoir soigner les grands blessés. Et petit à petit, leur travail nous a beaucoup aidés. Et grâce à ça, grâce à Antoine qui a couru le Mont-Blanc, là, on a pu acheter ce four. Et aujourd'hui, on peut faire des appareils pour que les gens puissent marcher à leur tour. Et ici, donc, ce sont Daniel et Djaligou qui sont appareilleurs orthopédiques formés sur le terrain, mais qui sont capables de faire des orthèses, des prothèses, des corsets. C'est incroyable de voir ça. Et Djaligou, qui travaille dans le premier centre, c'est un de mes premiers enfants handicapés. Il était atteint de poliomyélite, il avait une jambe complètement courbée et il sautillait sur un bâton. Et on l'a fait opérer, on l'a mis à l'école. Aujourd'hui, c'est un garçon extraordinaire qui aime le Seigneur, qui a fondé une famille et qui aime son travail, qui aime soigner ses frères et sœurs handicapés. Et c'est lui, Djaligou, qui a formé notre appareilleur orthopédique à FADA. Voilà, le travail se transmet. Donc, je vous laisse ce projet sur votre cœur. Quand je vois, j'ai entendu hier, hein, Thiago et Roland et Dorothea m'ont raconté un peu comment vous avez préparé ma venue. Déjà, les panneaux, là, ça, c'est très beau. Moi, ça m'a touchée. Hein, ça, vraiment, et puis, j'ai entendu parler de tarte aussi, hein. Vous ne me connaissez même pas, vous ne connaissez pas le travail, déjà vous êtes investi. Vous ne pouvez pas imaginer le bien comment ça me touche, vraiment. Et merci pour déjà ce que vous avez fait. Et que le Seigneur vous mette à cœur ce ministère et aussi priez pour nous. Priez parce que c'est la base quand même de tout ce travail. Voilà, avec un petit don, on peut vraiment aider un tel ministère. Un petit don fidèle, même si c'est 5 euros par mois, ça peut déjà aider beaucoup. Un enfant, comme je disais tout à l'heure, c'est des années de prise en charge. Nos enfants aveugles, il y a tout le primaire, tout le secondaire, on les accompagne. On demande aux familles de faire des petits efforts, mais c'est rien par rapport aux frais que coûte la prise en charge d'un enfant handicapé. On fait des kilomètres en moto chaque jour. Il faut payer chacun de nos employés. Il y a tous les frais de scolarité à payer aussi. La chirurgie, peut-être une chirurgie qui va coûter 1 500 euros, la famille va donner 50 euros seulement. Donc nous, on doit trouver tout le reste. Donc voilà. Mais ce qui est merveilleux, hein, et là, je suis vraiment reconnaissante, c'est que depuis presque 30 ans qu'on s'occupe d'enfants handicapés, on a toujours pu continuer. Et on ne regarde pas si on a l'argent ou pas l'argent, on avance. Et le Seigneur a toujours pourvu, on a toujours pu payer nos salaires. Voilà, donc je vous encourage à vous investir pour continuer à faire des disciples de Jésus et prier, donner, partager ensemble, trouver des actions. Même infimes peuvent aider beaucoup de tels ministères. Donc on peut s'engager avec la CIM, la Société internationale missionnaire, de différentes manières. Et il y a aussi possibilité d'aller sur le terrain pour des... Ils appellent ça les voyages... j'ai un peu oublié le nom là aussi, mais c'est écrit sur la table dehors, où on peut aller pendant 15 jours avec un groupe de jeunes ou de moins jeunes. Hein, c'est visiter le pays et travailler avec les gens sur place. Et ça fait découvrir la mission, découvrir un monde... qui est c'est vraiment tellement différent du nôtre. Hein. Mais chacun là-bas a aussi besoin du Seigneur et d'amour. Donc courons avec nos enfants, hein, continuons à les porter les uns avec les autres. Donc, là, c'est Malo ici, hein, et Tani. Herman qui est là, il est aveugle. Bon, là, il est un peu plus petit, il a 17 ans, et il a Skype, et presque tous les soirs, il m'appelle. Voilà, et on va finir avec cette petite fleur hein, qui nous rappelle que, pour moi, elle me rappelle que Jésus est la lumière et c'est lui notre seule espérance. Et c'est là qu'on veut mettre la lumière, à la lumière, la cause des délaissés, de ceux qui sont abandonnés, pour qu'ils sentent la présence du Seigneur et au travers de nos actions, qu'ils puissent voir l'amour de Dieu. Cette petite fleur, elle pousse en pleine saison sèche. Donc, il n'y a pas eu de pluie depuis des mois. Et en plus, il y a eu les feux de brousse sont passés. Donc, la terre a été brûlée et tout. Et tout d'un coup, en pleine saison sèche, elle sort de la terre. Et je trouve, et alors c'est d'un jaune éclatant, et je trouve que c'est une lumière dans cette Afrique qui nous semble si désespérée. Il y a toujours de l'espérance. Mais vraiment, l'espérance est dans notre Seigneur et c'est ça qui est important, qu'on puisse continuer à parler du Seigneur et que les chrétiens de là-bas puissent vraiment prendre le relais, hein, et ils le prennent d'ailleurs, hein, mais qu'ils puissent être affermis, encouragés malgré la situation aujourd'hui. Alors n'oubliez pas les petits oubliés du Faso et surtout d'être reconnaissants, hein, les enfants, de tout ce qu'on a. Moi, souvent, quand je tourne le robinet d'eau à la maison, je dis merci Seigneur. Parce que là-bas, les petites filles, hein, les garçons, ils sont un petit peu paresseux hein, en Afrique. Hein, mais les petites filles, elles font des kilomètres pour aller chercher l'eau, pour avoir à boire. Hein. Voilà, non, les garçons, ils font des choses aussi. Hein, mais c'est un peu différent. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Et encore merci d'avoir écouté le témoignage de ces enfants. Et c'est un privilège de pouvoir les avoir rencontrés. Et c'est vrai que ça vaut le coup de travailler pour le Seigneur, vraiment, là où il nous place. Amen.